Chapitre 14. Il y a deux façons de traiter l'information. Soit assécher complètement le flot et laisser les gens dans l'ignorance, soit inonder la population et la maintenir dans la confusion. Je choisis quant à moi la deuxième méthode, car les citadins préfèrent toujours l'excès d'abondance à la pénurie. Gaspard Keaton, New York Daily Star. Cité unifiée de Nilopa. Les politiques, les fouineurs et les flics de la cité unifiée pensaient tout contrôler avec leur saloperie de biopuce. Mais il existait de multiples façons de déjouer leur surveillance. Ils auraient été effarés de découvrir ce qui se passait dans les appartements et les pavillons de Nilopa. Plus la surveillance se resserrait, et plus les gens s'ingéniaient à la tromper. Un jeu faisait fureur dans certains quartiers de Paris, le jeu de la puce. Il s'agissait de commettre le plus de délits possible sans alerter les yeux et les oreilles de ceux qui nous surveillaient, puis de balancer sur les réseaux parallèles les séquences auxquelles les spectateurs donnaient des notes.
« Tire, nom de Dieu !»
Le garde du corps vacilla, incapable de conserver son équilibre. Son pistolet lui échappa des mains.
« Je peux pas !»
murmura-t-il.
« J'ai pas la force. Je suis paralysé. »
Les deux hommes s'effondrèrent en même temps sur le carrelage.
« Putain !»
souffla l'autre.
« Qu'est-ce qui nous a... »
Ganesh essaya de briser ses liens, mais ils résistèrent. « Prise de contrôle des biopuces des suspects. Je n'arrive pas à détendre les liens. » L'un des deux gardes du corps se releva tout à coup, sortit de la pièce d'une démarche mécanique et revint quelques secondes plus tard avec un couteau. « Merde, il va me... Biopuce suspect sous contrôle. » Le garde du corps passa derrière Ganesh, s'accroupit, lui glissa la lame du couteau entre les poignets, trancha les attaches, puis, aussitôt, s'affaissa sur le sol où il resta inerte. Des éclats de panique volèrent dans ses yeux grands ouverts. Ganesh effectua quelques mouvements pour se dégourdir les jambes. Se souvenant que les gardes du corps attendaient le retour d'Ahriman, il se dirigea vers la sortie. Il n'eut pas le temps d'atteindre la porte. Une voix claqua derrière lui.
« Bouge pas, enfoiré !»
Il se retourna et reconnut l'homme qui l'avait neutralisé avec le taz et qui, remis de sa paralysie, pointait sur lui une arme d'ancienne génération.
« Qu'est-ce que vous foutez par terre, vous deux ? »
grogna-t-il.
« Une attaque virale. Tue-le avant que sa biopuce... »«
Quoi, sa biopuce ? Hé ! »
Neutralisation du suspect dans 3 secondes. Les gestes de l'homme se ralentissaient déjà. Ses traits se crispaient. Son visage blêmissait. Sa main peinait à tenir son arme. Ganesh, estimant qu'il valait mieux ne pas lui laisser la possibilité de presser la détente, se précipita sur lui en effectuant un brusque crochet pour éviter la ligne de tir. Le percuta de l'épaule. L'homme bascula en arrière et s'écrasa contre le mur. Son index enfonça la détente. La balle fusa à quelques centimètres de la tête de Ganesh et se ficha dans la porte. Prise de contrôle de la biopuce du suspect. L'homme tenta de redresser le bras sans en avoir la force. Il relâcha son pistolet, qui glissa sur le carrelage. Théodore Bernier était du genre cabochard, je peux vous le garantir. Quand il avait une idée en tête, rien ni personne ne pouvait l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il n'avait strictement rien à foutre de la légalité. Une liberté de caractère et de mouvement qui lui avait sans doute joué des tours. Qui lui avait interdit, par exemple, de s'élever dans la hiérarchie des fouineurs. Il se fichait également des honneurs comme de son premier chapeau. Son extrémisme avait certainement eu un lien avec sa disparition. Mais je crois qu'on avait besoin de fouteurs de merde dans son genre, dans un milieu aussi ordonné, aussi aseptisé que l'administration de la cité unifiée. Le tube sous-marin filait à sa vitesse de croisière, atteignant les 1300 km/h. Le passage du mur du son s'était traduit par une secousse à peine perceptible. Les nanomatériaux assuraient une conductivité maximale et permettaient aux turbines électriques de fonctionner à pleine puissance. La vue restait parfaitement nette et stable à cette vitesse, et la transparence des parois offrait un spectacle surprenant. On m'avait dit qu'il n'y avait plus de vie dans les océans. Je m'attendais pas à de telles merveilles. Théodore s'assura d'un regard circulaire que la femme ne s'adressait pas à un autre que lui. Difficile de lui donner un âge. Elle avait sans doute subi une série de corrections génétiques qui la maintenaient dans l'apparence de ses 35 ans. 6 implants correcteurs lui confirma la biopuce analytique. mais quelque chose en elle, la gravité du regard sans doute, trahissait son âge véritable, aux alentours de la soixantaine.
« C'est la première fois que vous allez à New York ?»«
Et vous-même, monsieur ?»« Monsieur ?»«
Théodore. Appelez-moi Théo. »«
Enchanté, Théo. Je suis June. »
Le fouineur serra délicatement la main qu'elle lui tendait. Elle portait des cheveux au burn à la structure savante. Elle avait l'allure de ces antiques poupées de porcelaine que l'on contemplait dans certains musées.
« Ravi de vous rencontrer, June. Je suis allé à New York à de nombreuses reprises, mais le spectacle de l'océan me fascine toujours autant que la première fois, voire davantage. »«
Peut-être. » Elle se mordilla la lèvre inférieure comme si elle tentait de s'empêcher de proférer une bêtise. « Peut-être le pays hors site n'est-il pas aussi pollué qu'on le prétend ? Peut-être est-il aussi beau et fertile que le fond des océans ?»«
Les dernières mesures affirment que nos chances de survie seraient quasiment nulles hors des murs de la cité. »«
Qui relève ces mesures ?»«
Les services techniques de la cité unifiée. » »«
Ni vous ni moi, n'est-ce pas ? Ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent. » Théodore eut une moue dubitative.
« Quel intérêt aurait-on à maintenir 115 millions d'êtres humains entre des murs ?»
Elle rapprocha sa bouche de l'oreille de son interlocuteur et chuchota.
« Gardez le contrôle sur les esprits, monsieur. »
Théo s'efforça d'effacer toute condescendance de son sourire.
« Je serais pas vraiment étonné que vous soyez une adepte de la théorie des conspirations, June. »
« Je suis persuadé qu'on ne nous dit pas tout. Cette histoire d'ombre, par exemple. »
« Eh bien ?»
Ça cache quelque chose. Sans des complicités très haut placées, les assassins ne pourraient pas commettre tous ces crimes en toute impunité. On les aurait déjà arrêtés et jugés.
À moins qu'ils ne soient trop malins pour la police.
Pour la police peut-être, sûrement pas pour les fouineurs.
Diable, j'ai l'impression que vous tenez les fouineurs en très haute estime.
La femme marqua son étonnement d'un retrait du buste.
Pas vous ? Ce sont des hommes comme les autres, aussi faillibles que les autres.
Mon fils... La voix de la femme se brisa, tout à coup. Mon fils était fouineur, un élément brillant.
Que lui est-il arrivé ?
Elle en appelait visiblement à toute sa volonté pour retenir les larmes qui s'accumulaient dans ses yeux. Il a disparu, il y a de cela une quinzaine d'années. J'ai jamais eu de nouvelles depuis. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Son chef de groupe m'a dit qu'il avait probablement été victime d'un plombeur qui aurait fait disparaître son corps.
Je suis désolé pour vous.
Le plus étrange est qu'on n'ait relevé aucune trace de sa biopuce. Je suis seul désormais. Mon mari a succombé à une crise cardiaque malgré 6 implants correcteurs.
Comment s'appelait votre fils ?
Pourquoi ? Vous connaissez des fouineurs ?
Ça se pourrait.
Jeremy Durant. Théo laissa le temps à sa biopuce de lui fournir les informations relatives à Jeremy Durant.
« Ce nom me dit quelque chose »,
reprit-il au bout de quelques secondes.
« Il me semble l'avoir croisé quelque part dans Paris. Un homme brun, grand et maigre, des yeux noirs, une peau aussi claire et lisse que la vôtre.
« C'est ça, c'est tout à fait lui !» s'exclama la femme. « Que faites-vous dans la vie, monsieur ?»«
Moi ?»
Son regard tomba sur un tableau au lot, inséré dans la cloison de séparation des compartiments.
Je suis marchand d'art. Vous voyez, je fouine moi aussi.
La main noire faisait partie des mouvements les plus extrémistes et dangereux de la cité unifiée. Puissante, ramifiée, elle comptait des milliers d'adeptes fanatisés, prêts à se battre jusqu'à la mort. Beaucoup pensaient que la main noire avait un lien direct avec les ombres, qu'elle en était même le berceau, la matrice. Je faisais partie de ceux qui estimaient que, malgré son envergure financière et politique, elle n'avait pas les moyens de perpétrer autant de meurtres en une période aussi courte. Mais j'ai constaté depuis qu'il ne fallait jamais sous-estimer un adversaire. Lorsque Leito Mercant, responsable en second du corps des fouineurs, ouvrit la porte de son appartement, il se retrouva nez à nez avec le fouineur Ganesh Parvati, qui lui braquait le canon d'un pistolet mitrailleur sur la poitrine. Il masqua sa surprise d'un sourire crispé.
Je ne pensais pas tomber sur vous, fouineur Parvati. Pas dans cette configuration, en tout cas.
Les temps changent, monsieur. Ou plutôt, Ahriman. Sa propre voix parut à Ganesh déformée, étrangère. Ne bougez pas. Et veuillez garder les mains loin de vos poches.
Mercant écarta les bras de son corps. Il portait l'un de ses costumes noirs rayés de gris en vogue dans les milieux huppés de Nilopa, et des chaussures noires, étroites, plus lisses que des miroirs. «
Comment avez-vous réussi à vous libérer ? Vous débarrasser de ces trois crétins n'était probablement pas une tâche insurmontable, mais pour les avoir moi-même testés sur des suspects, je pensais vraiment vos liens indestructibles. Vous ne semblez pas porter une très grande estime aux adeptes de votre organisation.
Nous avons besoin d'eux. Nous ne sommes pas obligés de les apprécier. »
Du canon du pistolet mitrailleur, Ganesh lui ordonna de garder les mains écartées.
« Ne m'obligez pas à vous tirer dessus. »
« Que voulez-vous ?
Vous le savez très bien. Je suppose que la main noire n'agit pas seule, qu'elle est liée à d'autres organisations, peut-être même à l'administration de la cité. Dites-moi lesquelles, et nous serons quittes. »
Le sourire de Mercant se transforma en rictus.
« Avez-vous bien conscience, mon jeune ami, que si je prononce le moindre nom, je serai mort dans l'heure qui suit ?
Je ne crois pas que vous ayez peur de la mort. Fin du mode direct contrôle. Fin du mode direct contrôle. »
Ganesh se félicita a posteriori d'avoir pris la précaution de ficeler les trois gardes du corps.
« J'ai peur en tout cas de subir ma mort, » déclara Mercant.
« Je veux la choisir. Ce n'est pas une raison pour bouger vos mains. »
La pointe de la langue de Mercant se promena sur ses lèvres.
« Excusez-moi, mes lèvres sont sèches et me démangent.
Vous allez maintenant me suivre.
Vous ne trouvez pas cet appartement accueillant ?
Très bel appartement, mais je suis certain que vous avez déjà prévenu vos amis et qu'ils risquent de débouler d'un moment à l'autre. Soit vous m'accompagnez au central sans résistance, soit je vous envoie une décharge paralysante et vous fais transférer dans une cellule. Que choisissez-vous ?
Mercant fixa le fouineur d'un air provocateur.
Je ne suis pas en position de choisir, Ganesh Parvati, je ne bouge pas d'ici.
Gardez vos mains loin de vos poches, monsieur, ou je vais être obligé de...
Ne vous agitez pas inutilement, mon jeune ami. Je serai mort dans 2 minutes.
Vos amis n'ont pour l'instant aucune raison de vous tuer.
Une ombre glissa sur le visage impassible de Mercant.
Qui vous parle de mes amis? Vous avez ouvert une porte et je me dois de la refermer. À jamais. Je pourrais vous éliminer, bien sûr, mais je n'aurais pas résolu le problème. Ce n'est pas vous le problème. C'est moi. Je suis coupable d'imprudence et j'ai mis l'organisation en danger. Mon devoir et mon honneur me commandent de m'effacer. »
Ganesh leva avec nervosité son pistolet mitrailleur.
« N'essayez pas de m'embobiner, monsieur. Ni moi ni personne d'autre n'avons l'intention de vous tuer. »
« Je n'ai besoin de personne, mon vieux. Chaque adepte de la main noire est équipé d'une fausse dent qui contient une capsule de poison rapide. Je viens à l'instant de déclencher son ouverture. Le venin court déjà dans mon sang. »
« Je ne vous crois pas. »
Le petit rire de Mercant eut une résonance sinistre dans le silence de l'appartement.
« Que vous me croyez ou non n'a aucune espèce d'importance, Ganesh Parvati.
Pas de chance pour vous, la piste s'arrête avec moi.
C'est préférable pour vous sans doute. Vous êtes un élément prometteur et vous auriez mis le doigt dans un engrenage qui aurait fini par vous happer et vous déchiqueter.
Analyse morphopsyché. Décès du suspect dans 10 secondes.
Dites-moi au moins si la main noire a un rapport avec les ombres. »
Les jambes de Mercant se dérobèrent sous lui, et il s'affaissa sur le sol avec la légèreté d'une feuille morte.
« Si j'ai choisi ma mort, mon jeune ami, ce n'est certainement pas pour vous faire la moindre... »
Sa voix n'était plus qu'un souffle.
« Confidence. »
Ganesh se pencha sur lui et le secoua sans ménagement par le col de son costume.
« Aidez-moi ! Des centaines de gens meurent tous les jours !»«
Que voulez-vous ? Mourir est le lot de tous les êtres humains, »
murmura Mercant avant de rendre son dernier souffle. Ganesh se releva et contempla son cadavre avec une colère mêlée de frustration et de compassion.
« Merde et merde !»
Un soleil radieux brillait sur Paris. Ganesh avait décidé de rentrer chez lui à pied en longeant la Seine, dont l'eau entre les barrières filtrantes de Marne-la-Vallée et de Conflans-Sainte-Honorine était d'une pureté irréelle. Accoudé sur le parapet du Pont-Neuf, il suivit un long moment les évolutions des poissons aux couleurs vives et aux nageoires translucides.
« Demande d'ouverture du domaine protégé. Demande d'ouverture du domaine protégé. Code. »
Ganesh vérifia d'un regard circulaire que personne ne pouvait l'entendre. les passants les plus proches déambulaient une vingtaine de mètres plus loin. Code WA196BX-60ZKY. Domaine ouvert. Espace de dialogue ouvert. La voix qui résonna dans le crâne de Ganesh était lointaine, étouffée.
Bonjour Ganesh. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons rapidement changer de cryptage. Où êtes-vous ?
L'accent était new-yorkais. Dans une rue de Paris.
Confirmation de la localisation.
Si vous me localisez avec autant de facilité, vous devez savoir que je viens tout juste de me sortir d'une mauvaise passe.
Nous étions informés de vos difficultés, mais nous ne pouvions pas intervenir. Nous ne sommes plus assez nombreux.
Si je comprends bien, on ne peut plus compter sur personne dans cette cité.
Notre marge de manœuvre se réduit davantage chaque jour. Nous sommes traqués. Nous avons constaté une activité anormale de votre biopuce.
Elle est passée en mode direct contrôle.
Évitez autant que possible d'y recourir.
Vous en avez de bonnes, vous !
Ganesh s'assura que son éclat de voix n'avait pas attiré l'attention des passants.
Que vouliez-vous que je fasse ? Sans elle, je n'aurais pas réussi à me libérer de mes liens, ni me débarrasser de mes anges gardiens.
Nous en sommes conscients. Mais ce qui se passe avec votre biopuce n'engage pas que vous.
Qui d'autre ? La voix marqua un temps de silence.
L'humanité. L'humanité tout entière.
Esclave, tu dors sous un toit et manges tous les jours. Et, homme ou femme, ton maître dispose de ton corps selon ses désirs.
Libre, tu as le ciel pour abri, l'air pour repas, et tu te donnes à qui tu veux.
Proverbe attribué au clan des égouts de Trois Aubes.
Pays Orcite. Une odeur de poudre et de sang saturait l'air humide de la grotte. Deux animaux gisaient sur le sol rocheux. Le premier, énorme, était probablement l'un de ces ours argentés qui atteignaient un poids de 700 ou 800 kilos et une hauteur de 3 mètres debout. Une proie de choix pour les trappeurs. Leur peau se négociait très cher dans les agglomérations. Mais un gibier très dangereux, capable de décapiter un homme d'un simple coup de patte. Par chance, la balle s'était engouffrée en plein milieu de son poitrail et lui avait probablement perforé le cœur, le tuant net. Un peu plus loin, était allongé un molosse qui, malgré ses 80 kilos, semblait minuscule à côté du cadavre de l'ours. Son sang continuait de se répandre par la large entaille à son cou. Delune se retrouva face à un homme armé d'un revolver, sans aucun doute Pitbus. De la pointe de son arme, il lui ordonna de rejoindre les deux silhouettes recroquevillées dans un coin de la cavité. Le cœur du guérisseur se gonfla de joie lorsqu'il reconnut Naya, assise près de Yosp.
« T'es qui, toi ?»
grogna Pitbus.
« Qu'est-ce que tu fous ici ?»
Delune s'assit aux côtés de Naya et répondit d'un sourire à son regard brillant. Yosp paraissait également content de le revoir.
« Je m'appelle Delune. Je suis guérisseur du clan du Haut-Lieu. »
Pitbus le fixa un petit moment.
« Tu es celui qui a soigné Graar de son mal de rein ?»
Delune opina d'un mouvement de tête.
« Ezok, le guérisseur du clan, t'avait pas à la bonne, pas vrai ?»
reprit Pitbus. Il désigna Yosp et Naya d'un coup de menton.
« Tu connais ces deux-là ?»«
Je suis arrivé avec eux à Trois Aubes. »
Un rictus vénéneux fleurit sur le visage de Pitbus.
« Pas de chance pour toi. Je suis chargé d'en débarrasser la surface de la terre. »
Il leva son revolver.
« Il me reste 2 balles là-dedans. Une pour la vigie, l'autre pour elle ou toi. Je vous propose une variante d'un jeu qu'on appelle la roulette. »
Il s'approcha d'eux et choqua l'extrémité du canon de l'arme contre le front de Naya.
« Il restera 1 balle, une fois que j'aurai tué le monstre.
Je pose d'abord le flingue sur elle, je tourne le barillet, je presse la détente. S'il coup part, elle meurt, et tu vis. S'il coup part pas, c'est à ton tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un de vous crève. Le vainqueur gagne le droit de survivre. Si la fille gagne, je prendrai ma petite récompense. Si c'est toi, tu iras te faire voir ailleurs. Ça me paraît assez juste. »
Poussé par l'envie de rassurer Naya, Delune se serra contre elle et cala sa hanche contre la sienne.
« Et après ? » lança-t-il. « Que se passera-t-il quand tu retourneras à Trois Aubes ?»
Le sourire de Pitbus dévoila ses dents noircies et en partit déchaussé.
« Je prendrai ma part. Je deviendrai chef du clan du lynx avec l'aide du perce-oreille et de mes autres alliés. »
Le lynx a gagné la guerre cette nuit. Les traits de Pitbus se tendirent.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Avant de partir de la maison de Dronka, j'ai vu et entendu les hommes du clan du Lynx célébrer leur victoire.
Pitbus serra les mâchoires et donna un violent coup de pied dans le cadavre de l'ours.
« Je suis pas sûr que tu me racontes la vérité. Mais si c'est vrai, je me débrouillerai pour reprendre ma place dans le clan et je guetterai la prochaine occasion. Ça change rien pour vous, en tout cas. »
Il pointa le bras sur Yosp d'un air mauvais.
« Le monstre doit crever. Ensuite, on s'amusera à la roulette. »«
Pas la peine de te donner cette peine, » déclara Delune.
« T'as juste à me flinguer et la laisser partir. »« Pas question, » protesta Naya. « Ta connaissance des plantes peut être utile aux autres. C'est à moi de mourir. Je n'ai aucune valeur. »
« Tout être humain a une valeur, » objecta Delune.
« Personne ne sait la mesurer, ni n'en a le droit. »
Pitbus frappa le front de Delune de la crosse de son pistolet. La douleur plia le guérisseur en deux. Le sang coula sur sa joue, aussi léger et chaud qu'une caresse d'une brise d'été.
« Fermez-la, vous deux, bon Dieu ! Vous m'avez obligé à cavaler toute la nuit, c'est moi et moi seul qui décide !»«
Pas toi, » corrigea Delune. Une pointe ébréchée lui labourait le crâne.
Mais le démon qui est en toi.
Le visage de Yosp flottait comme un masque d'épouvante dans la semi-obscurité de la grotte. Pitbus éclata de rire.
Nom de Dieu, le guérisseur, me dis pas que tu entres aussi dans la tête des gens.
Pas besoin. Tes paroles et ton attitude sont celles d'un possédé. Un homme normal ne tue pas par plaisir.
L'homme méchant a tué l'enfant,
intervint Yosp.
Il a dit aux autres que c'était un ours, mais c'était pas un ours, c'était lui et ses amis.
Pitbus lança au petit homme un regard mi-excédé, mi-inquiet.
Qu'est-ce que tu racontes, toi ?
Ce qu'il a dit à ton chef, intervint Naya.
Que toi, son propre neveu, tu as tué son fils unique pour prendre le trône du lynx.
Et maintenant, tu comptes toujours reprendre ta place dans le clan ?
Renchérit Delune.
Pitbus resta un moment immobile et silencieux, comme anéanti. Puis ses yeux se posèrent sur Yosp comme des oiseaux de proie.
« Tu vois rien au sujet de ton propre avenir, Vigie ?»«
Les heures parlent jamais de moi !»
bêla le petit homme.
« Elles t'ont donc pas dit que la mort s'en venait à grands pas ?»
Pitbus fit rouler le barillet jusqu'à ce qu'une chambre contenant une balle soit placée devant le canon.
« Je la vois même arriver dans moins de 3 secondes dans cette grotte !»
ajouta-t-il avec un ricanement. Il pointa son arme sur la tête de Yosp.
« Les heures me parlent !»
cria le petit homme. Sa voix chevrotante grimpait dans les aigus et devenait presque insupportable.
« Les hommes viennent pour toi, pour te tuer. Ils rapportent ta tête à ton chef !»«
À cette connerie !» cracha Pitbus. « Tu salueras pour moi ceux qui nous ont précédés en... Pose tout de suite ton arme, Pitbus, tout doucement. Il y a 3 flingues braquées sur toi. »
La voix avait surgi de l'entrée de la grotte. 4 hommes émergèrent de l'obscurité et s'avancèrent dans la grande salle armés de pistolets. Vêtements de cuir, hautes bottes et longues tresses, des membres du clan du Lynx. Du sang séché maculait leurs visages et leurs bras.
« Ah, c'est toi, Kalp !»
lança Pitbus avec un sourire crispé.
« Tu m'as foutu la trouille. J'ai retrouvé la vigie, comme tu vois. Je m'apprêtais justement à le flinguer.
Vaudrait mieux pas pour toi. » répondit l'homme qui semblait être le chef de la petite troupe.
« Pourquoi donc ?»«
Parce que Dronka compte le récupérer vivant. »«
Dronka ? Son temps s'achève, tu le sais autant que moi !»
Kalp retroussa sa lèvre supérieure sur ses dents longues et larges. « Je dirais au contraire qu'il a pris de l'ampleur ces derniers temps. Il a gagné la guerre contre les clans coalisés. Le Lynx est maintenant le clan le plus puissant de 3 aubes. »
« Me dis pas, Kalp, que t'es redevenu le petit chien de Dronka !»«
Je choisis d'être le chien de Dronka plutôt que ton ami. » Pitbus désigna Yosp de la pointe de son revolver.
« Tuons ce monstre et retournons ensemble à 3 aubes. Nous verrons bien qui commande. »
« C'est tout vu et c'est toi qui vas mourir. Tu as tué le fils de Dronka, il veut plus te revoir vivant. » Kalp pressa la détente de son arme une fraction de seconde avant son vis-à-vis. La balle de Pitbus se perdit dans les profondeurs de la grotte, tandis que celle de son adversaire lui perforait la gorge. Il cracha un flot de sang avant de s'effondrer comme une masse sur le sol rocheux.
« Vous n'êtes pas obligé d'emmener Yosp !» plaida Delune. « Vous n'aurez qu'à dire que vous ne l'avez pas retrouvé !»
Kalp accueillit d'une moue sceptique la suggestion de Delune. Ses acolytes s'affairaient à récupérer la peau de l'ours gris. La dextérité avec laquelle ils maniaient les lames de leurs couteaux dénotait leur habitude de l'exercice.
Au préalable, ils avaient décapité Pitbus et enveloppé sa tête d'un large tissu, avant de balancer son corps et celui du chien du haut de la grotte.
« Il y a déjà eu assez de mensonges, assez de trahisons, » fit Kalb.
Assis sur la base d'un pilier, il triturait l'une des tresses grises qui encadraient son visage. La lassitude creusait son visage aux rides prononcées. De Lune percevait l'ombre de la mort au-dessus de lui.
« Je ne suis pas certain que Yosp supporte un deuxième enfermement. Une vigie morte ne vous servirait à rien. »«
On peut toujours courir le risque, » répliqua Kalb.
« Yosp a fait son travail en révélant à Dronka la trahison de son neveu. Laissez-le partir. »«
Dronka m'a demandé de le ramener vivant avec la fille. »
« Si vous ne voulez pas raconter de mensonges à votre chef, il vous suffira de lui dire la vérité. »«
Je tiens pas à ce que ma tête orne la porte de ma maison.
Tout dépend de la façon dont vous lui présenterez les choses. »«
T'es un beau causeur, toi. C'est pas mon cas. »
De Lune croisa le regard inquiet de Naya, qui se tenait dans la pénombre de la grotte, aux côtés de Yosp.
« Si je vous laisse partir, » reprit Kalb, « vous ferez pas 20 pas avant qu'une tribu sauvage vous tombe dessus. »
« On s'en est sorti avant d'arriver à Trois Aubes. »
Kalb désigna Naya et Yosp d'un coup de menton.
« Ils ont quand même été capturés par des sauvages et, si on n'était pas intervenu à cette heure, leurs cadavres pourriraient dans la forêt. Toi, tu as été vendu à la criée par un minable du Perce-Oreille. Difficile de survivre dans le pays hors-site, sans la protection d'un clan.
Nous avons commis l'erreur de nous séparer. »
Kalb se releva et se rendit près du cadavre de l'ours sur lequel s'activaient ses acolytes.
« Vous comptez aller où ? »
demanda-t-il sans se retourner. De Lune rejoignit son interlocuteur et observa les trois hommes dépecer le grand animal. Ils prenaient leur temps. La fourrure aux reflets bleutés aurait 3 ou 4 fois plus de valeur intacte.
« Je ne sais pas au juste. Sans doute partir vers le sud. »
« Le sud ?»
Kalb se tourna vers lui et enfonça ses yeux dans les siens.
On dit que la Grande Guerre a laissé là-bas un air à peine respirable.
Les colporteurs et les trappeurs le traversent régulièrement et ne s'en portent pas plus mal. On essaiera de s'installer dans un bon coin.
Mon père disait que les seuls bons coins qui restaient sur cette terre, c'étaient les cités unifiées. On est dans le mauvais camp, mon garçon.
Il désigna l'ours et ses acolytes.
On n'a plus que ce genre de choses pour survivre.
Nous devons nous adapter comme la nature s'adapte.
Kalb tira son pistolet de sa large ceinture de cuir et le brandit au-dessus de sa tête.
« La voilà notre adaptation. Seuls les plus forts, les plus rapides ou les plus malins survivent. »
Il pointa le canon sur le tissu maculé de sang dans lequel était enfouie la tête de Pitbus.
« Voilà ce qui arrive quand on n'est pas aussi malin qu'on le croit. Si je ramène pas la vigie, mon garçon, je risque de finir comme lui. »
« J'en suis moins certain que toi. »
« Comment ça ?»«
Je suis pas sûr que Dronka tienne tant que ça à recourir au service d'une vigie. »
Kalb marqua sa surprise d'un haussement de sourcils avant d'inviter De Lune à poursuivre d'un geste de la main.
Les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire ni à entendre. Elles sèment parfois des pensées de haine qui engendrent des cycles de vengeance et de violence.
Juste.
Kalb resta quelques instants plongé dans ses réflexions, la tête penchée sur le côté.
Si j'avais pas appris que ma première femme m'avait trompé avec ce salopard de Simus, elle serait toujours en vie aujourd'hui. Et je passerai pas la moitié de mes nuits à la regretter. Je les ai attachés ensemble et enterrés vivants. J'ai pleuré à chaque pelletée de terre que j'ai jetée sur eux.
Il frissonna, puis se secoua comme pour se débarrasser d'un mauvais rêve.
Leur regard continue de me hanter.
Ses acolytes achevaient de prélever la fourrure. Même dépiauté, l'ours demeurait impressionnant. De Lune ne se souvenait pas en avoir observé d'aussi imposant dans les environs du haut lieu. Il prit conscience que dents de rat lui manquaient. Le vieil herboriste lui avait servi de père pendant 5 ans, et probablement avait-il considéré son jeune disciple comme son propre fils.
« Tu as raison, » reprit Kalb d'une voix pensive. « Il vaut sans doute mieux pour tout le monde que vous alliez tous les trois vous faire pendre ailleurs. Je m'arrangerai avec Dronka. »
« Une sage décision !»
s'exclama De Lune avec un large sourire.
« Passe le ciel que j'ai pas à la regretter, » marmonna Kalb.
Les hommes du lynx roulèrent la fourrure encore sanguinolente de l'ours et la posèrent sur les épaules de l'un d'eux. Puis Kalb se saisit du tissu contenant la tête de Pitbus et, après avoir salué De Lune, Naya et Yosp, ils prirent le chemin du retour.
Nous sommes libres.
Naya gardait les yeux rivés sur la chute d'eau. Il n'avait pas bougé après le départ des hommes du lynx,
malgré l'odeur forte et désagréable du sang et de la chair de l'ours écorché. Brisé par la fatigue, Yosp avait fini par s'assoupir au pied d'une paroi.
Sans armes, sans protection, où veux-tu qu'on aille ?
Il faut faire confiance au destin, répondit Delune.
Il nous a réunis. Je propose qu'on parte en direction du sud, qu'on essaie de rejoindre les rives de la mer Méditerranée.
Pourquoi ? Y a quoi là-bas ?
Delune haussa les épaules.
Je sais pas au juste.
Une autre vie ? Rien ne nous retient ici.
À moins que tu préfères retourner dans la maison de Dronka.
Je suis pas une esclave, riposta Naya avec vivacité. Personne n'a envie d'être esclave. La liberté est le bien le plus précieux de tout être humain, mais elle a un prix.
Lequel ?
L'incertitude. Le front de Naya se plissa de réprobation. Puis les mots de Delune tracèrent leur chemin dans son esprit, et son visage se détendit.
M'en fiche, finalement, du moment qu'on est ensemble.
Elle rougit, tenta précipitamment de dissimuler sa confusion en se tournant vers Yosp. Une impulsion poussa Delune à embrasser Naya. Un reste de pudeur l'en dissuada.
J'espère seulement qu'on ne se fera pas attaquer par des bestioles féroces, reprit-elle.
De toutes les créatures vivant sur cette terre, les hommes sont de loin les plus dangereuses, déclara Delune. Ils attendirent que Yosp se réveille pour sortir de la grotte, dévaler les rochers, traverser la chute et se mettre en marche en direction du sud, le soleil comme point de repère. Quelques kilomètres plus loin, ils suivirent un cours d'eau sinueux. Delune chercha des yeux une embarcation dans les roseaux au panache mordoré. La rivière coulait en direction du sud et il gagnerait du temps et de l'énergie s'il pouvait la descendre en barque. L'idée ne plaisait pas du tout à Naya ni à Yosp, qui tous deux détestaient l'eau. « On fera moins de mauvaises rencontres sur la rivière. » Delune achevait de prononcer ces mots quand il aperçut ce qu'il cherchait. Pas vraiment une barque, mais une sorte de radeau fabriqué à l'aide de rondins assemblés, pourvu d'un petit abri de toile en partie déchiré. Ils retirèrent les branchages et les tiges qui le recouvraient. Naya jetait des regards fréquents autour d'elle, craignant le retour des propriétaires de l'embarcation. Mais personne ne se manifesta, et ils mirent tranquillement le radeau à l'eau. On le manœuvrait à l'aide d'une longue perche qu'il suffisait de planter dans la vase de la rivière, assez peu profonde. Ils s'y installèrent malgré les protestations de Yosp. Sous l'abri de toile, ils découvrirent des restes de repas qui dataient, à en croire leur état, de plusieurs semaines, et un bâton grossièrement sculpté dont une extrémité se renforçait d'une pointe métallique. Naya tenta de dissiper les inquiétudes de Yosp.
« Delune a raison. On sera plus tranquille sur l'eau. »
Le courant assez faible finit par happer le radeau et Delune n'eut bientôt plus besoin d'utiliser la perche. Il progressait à vitesse régulière sur le cours d'eau bordé d'arbres couchés qui, malgré des méandres assez amples, continuait de couler vers le sud.
C'est vrai que c'est moins fatigant, apprécia Naya assise sous l'auvent de toile.
Elle se sentait un peu moins vulnérable avec le bâton posé le long de sa jambe. Des nuages noirs roulaient au-dessus d'eux, porteurs de pluie. Peu à peu, le paysage se modifiait. Des forêts et des prairies cernées de buissons succédaient aux hautes collines rocheuses, noires, presque nues, comme si un incendie avait dévasté les environs sur des dizaines de kilomètres. Les esquilles de troncs noircis et brisés se pointaient comme des doigts momifiés vers le ciel. Ils rencontrèrent leur première créature vivante au sortir d'un ample méandre enroulé autour d'une colline habillée de pierres sombres. Des êtres humains. Du moins s'en rapprochait-il. Faciès déformés, cheveux entremêlés et barbes fournies pour les hommes, membres atrophiés, corps velus et voûtés, comme si leurs bras tentaient de se poser sur le sol pour faire d'eux des quadrupèdes. Ils ne portaient pas de vêtements, hormis pour quelques-uns, de vagues parures faites de branches entrelacées et de feuilles.
« Une tribu ?» marmonna Naya.
« Les heures me disent !» cria Yosp. « Ils veulent nous manger !»«
Pas la peine de parler aux heures pour le deviner. »
Massé sur la rive, il guettait visiblement le passage du radeau. Delune, piquant la perche dans la vase, tenta de diriger l'embarcation vers l'autre côté de la rivière, mais le courant, plus puissant à cet endroit, les ramenait inexorablement vers l'endroit où se pressaient les cannibales.
« Les heures me disent, ils lancent des pierres !»
Une pluie de pierres se mit à tomber quelques secondes après que Yosp eut prononcé ces mots.